Eh bien, je vous invite, sans plus attendre, à ouvrir votre Bible, si vous le voulez bien. Je vous invite à l'ouvrir dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, et nous aurons une lecture pour introduire, eh bien, ce sujet. Il est écrit, venez, je vous invite à vous lever, peut-être pour lire la parole de Dieu. Il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te sollicitons plus que jamais encore ce matin pour disposer favorablement nos cœurs, nos âmes, nos esprits devant ta parole. Te louons parce que tu ne nous as pas laissés sans direction. Tu ne nous as pas abandonnés à nous-mêmes, mais tu es présent par ton esprit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Combien nous te prions encore de diriger toute chose ce matin encore dans la conduite et bien de cette méditation et qu'elle te rende gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, eh bien, le sujet à développer est celui du gouvernement de l'Église, la conduite de la maison de Dieu. Et en préparant ce message, je me disais, oh là là, mais ça, ce que je vais dire là, ça ne va pas correspondre à telle ou telle confession, telle ou telle organisation, telle ou telle assemblée. Finalement, je me suis rendu compte que la question du gouvernement de l'Église, eh bien, c'est ce qui peut beaucoup fâcher les hommes entre eux. Pourquoi? Parce que ça fait appel à quoi? Ça fait appel au cœur de l'homme. Ça fait appel à ses sentiments. Ça fait appel à tout ce que Dieu a déjà établi en lui ou n'a pas établi en lui. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur, quand il nous a donné ce texte, il n'a pas dit, afin que tu saches comment il faut conduire la maison de Dieu. Mais comment il faut se conduire. Et il fait appel ici eh bien, aux qualités eh bien, personnelles eh bien, de ceux qui ont la charge de diriger l'Assemblée locale. Avant de tresser ce sujet, j'aimerais faire juste trois petits préliminaires. D'abord, eh bien, la parole de Dieu est l'autorité suprême de l'Église locale. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, zélé pour la tradition de ses pères, il a fini droit dans le décor. Ce n'est pas la tradition qui gouverne l'Église locale. Ce ne sont pas les habitudes passées. C'est la parole de Dieu qui doit régner, qui est le cœur de notre foi, mais elle est là pour gouverner nos esprits, notre intelligence et notre communion. Il ne s'agit pas de la religion des parents, de l'habitude, des coutumes, des traditions. Ce ne sont pas non plus les préceptes du monde qui doivent gouverner eh bien, l'Église locale. Et on sait qu'aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, nous sommes énormément influencés, c'est toujours ce dont on parle, énormément influencés eh bien, par l'impact de ce monde. Deuxième remarque, Jésus-Christ est l'autorité suprême de chaque église locale. Voyez comme lui-même s'est intéressé aux sept églises de l'Apocalypse. Il ne s'intéresse pas simplement à l'église universelle en général, mais à chaque église en particulier pour la consoler, pour la reprendre, pour la corriger, pour la conduire, pour la paître. Et donc c'est à lui eh bien, que nous aurons des comptes à rendre. Troisième remarque, l'Église locale est souveraine. Hier, Emmanuel Bozzi a abordé cette question, mais j'aimerais ajouter eh bien, qu'une Église locale, elle est souveraine, c'est-à-dire qu'elle trouve ses responsables dans son sein. Elle n'est pas dépendante d'une autorité extra-locale. Une église locale est constituée de membres confessants. On a parlé du baptême hier. Mais c'est comme cela, en confessant, qu'on entre eh bien aussi de plein pied dans l'église locale. Elle est organisée autour de ses membres, elle est autonome. Et ses responsables n'ont de compte à rendre qu'à leurs membres et qu'à Jésus-Christ. Et ce principe, du reste, n'interdit pas les discussions entre pasteurs, en aucune manière. Nous nous souvenons dans le livre des Actes, au chapitre 15, eh bien que le commencement de l'Église, les apôtres se retrouvaient pour parler des problèmes. Mais l'autonomie signifie tout simplement que l'Église ne reçoit pas d'ordre d'une organisation qui lui serait supérieure. Nous connaissons tous eh bien, le système catholique très hiérarchisé, où finalement eh bien, le prêtre n'est qu'un maillon d'une chaîne de hiérarchie. Nous n'y croyons pas. Certains nous ont reproché, dans le cadre de l'Alliance, de vouloir organiser eh bien, un système pyramidal qui aurait pour vocation de dire « toi fais ci, toi fais ça, et organise ceci, et organise cela, et fais cela, et gère ton église comme ceci, comme cela ». Non. Ça n'a jamais été, eh bien, notre aspiration. On peut penser aussi aux missions qui, après avoir fondé des églises, eh bien, veulent garder la main sur ces églises quand celles-ci ont trouvé leur autonomie de gestion financière et de responsable. Là aussi, eh bien, on sort du cadre biblique. On peut penser à l'armée du salut. L'armée du salut, que le Seigneur a par ailleurs bien béni, mais qui a voulu s'affranchir des règles de la doctrine ecclésiale. Alors, pendant un temps, elle a porté du fruit, mais par la suite, eh bien, elle s'est effondrée parce qu'elle n'avait pas l'organisation, la structure, eh bien, que Dieu avait préparée pour sa pérennisation. J'ai regardé dans une dans cette confession de 1689, la confession de foi baptiste qui a fait, qui est encore une grande référence eh bien, dans le monde baptiste, dans toute l'humanité. Et j'ai lu ceci qui est assez intéressant, que je pourrais vous partager, sur l'indépendance des églises. Il est écrit: dans les cas de difficulté ou de différence sur un point de doctrine ou d'administration, en ce qui concerne la paix, l'union et l'édification des églises en général, d'une seule église, ou si un ou plusieurs membres d'une église sont blessés par un procédé de discipline contraire à la vérité et à l'ordre, plusieurs églises en communion mutuelle se réunissent, selon la pensée de Christ, et par le moyen de leurs délégués pour examiner, donner leurs conseils sur ce sujet de différence. Le résultat doit en être rapporté à toutes les églises concernées. Toutefois, cette assemblée de délégués ne possède aucun pouvoir ecclésial à proprement parler, ni aucune juridiction sur les églises elles-mêmes pour l'exercice de quelque discipline que ce soit à l'encontre d'une église ou d'une personne quelconque, ou pour imposer leurs décisions aux églises et aux responsables. Et c'est en soi, eh bien, ce que nous croyons. Nous croyons à la communion, mais nous croyons à l'indépendance du gouvernement, eh bien, de chacune des églises. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que en France, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais le principe de la loi 1905 a consacré aussi le principe de l'indépendance des associations. Et on ne peut pas mettre subordonner une association à une autre. Elles sont nécessairement indépendantes. Voilà, eh bien, quelque chose d'important. La souveraineté de l'Église locale, la souveraineté de Jésus-Christ sur l'Église locale, la souveraineté de la parole de Dieu sur l'Église locale. Pour développer eh bien, ce sujet, j'aimerais attirer votre attention sur trois points. La notion de responsable, le rôle des responsables et la relation entre les responsables. La notion de responsable. Vous savez que pourquoi Dieu a-t-il établi des responsables ? Eh bien, parce que nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 14 et au verset 33 que notre Dieu n'est point un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et voyez-vous, le gouvernement de l'Église a pour vocation eh bien, d'assurer la paix eh bien, entre les frères et les sœurs. Parfois, eh bien, on rencontre certaines assemblées où on veut s'affranchir de toute autorité, toute notion même d'autorité. On est tous égaux, on est tous des frères. Pourquoi toi tu veux t'élever au-dessus d'un tel ? Et qui, pour qui tu te prends, toi, à vouloir donner des ordres et ceci et cela ? Et parfois, eh bien, cette notion d'autorité est mal vécue. N'est-il pas écrit ? Eh bien, il n'y a plus ni esclave, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et avec ce verset, eh bien, on essaye de s'opposer à la notion d'autorité. J'aimerais rappeler simplement une chose, c'est que Dieu a donné deux systèmes très importants pour organiser la vie de l'homme et sa communion avec lui. Deux systèmes universels, c'est celui de l'ordre et c'est celui du salut. Le salut nous rend tous égaux les uns avec les autres. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Plus ni homme ni femme, plus juif, plus grec, plus esclave, plus de libre. Nous sommes tous un en Christ. Mais il a aussi établi un autre système qui ne lui est pas antagoniste, mais qui lui est parallèle, c'est l'ordre. Nous apprenons que Dieu a établi des positions, des hiérarchies, des autorités sur l'ensemble de sa création. C'est ainsi que, dans la famille, il a établi des autorités sur les enfants. C'est ainsi que, dans la famille, il a établi eh bien, un rapport d'autorité entre l'homme et la femme. C'est ainsi que, pour les peuples, il a établi le gouvernement humain, des responsables eh bien, qui gouvernent sur les hommes. Et c'est aussi la raison pour laquelle eh bien, Dieu, dans son Église et dans les Églises locales, a établi aussi eh bien, des autorités. On trouve, eh bien, dans Tite, chapitre 1, verset 5, cette parole de Paul à Timothée, à Tite, excusez-moi. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Alors voilà, donc le principe des autorités pour assurer la paix. Nous voyons aussi dans le texte que nous avons lu qu'il y a deux types d'autorités dans l'église locale, l'évêque et le diacre. Deux types. Je n'ai pas dit qu'il y avait deux personnes, mais deux qualités, deux types de personnes pour gouverner l'église locale, l'évêque et le diacre. C'est ce que nous dit ce texte dans 1 Timothée 3, 1 à 15. Ceci nous est repris dans Philippiens, quand le Seigneur s'adresse à cette église. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il est vrai qu'ici, parmi nous, eh bien, il y a des évêques et des diacres. Nulle part, eh bien, dans les Écritures, nous trouvons eh bien, d'exemples d'églises fonctionnant sur une structure tripartite ou à quatre dimensions. C'est très important de noter cela. Parce que regardez, c'est ce que l'Église catholique a fait. Vous avez le prêtre, le diacre, l'archiprêtre, l'archidiacre, le cardinal, l'évêque et le pape. Dieu nous a donné deux types, deux qualités de responsables et non plus. Alors dans notre texte, il est question d'évêques. Dans d'autres passages, eh bien, il y a d'autres termes, pasteurs, anciens, qui sont employés. Mais tout cela définit la même personne. Et je vous invite à regarder notamment en Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Ils arrivent, et nous arrivons, nous, eh bien, au verset 27. « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et nous voyons ici donc le terme « ancien », nous voyons le terme « évêque », et nous voyons même le terme « pasteur », puisqu'il est question de « paître ». Et le mot qui signifie « paître », c'est, j'allais dire « pasteuriser », mais ça ne correspond pas à la même signification. Et il est question d'un troupeau, et le berger eh bien, s'occupe d'un troupeau. Donc on voit que ces trois termes sont là sur la même ligne. Tenez d'ailleurs... Il y a la communion des assemblées évangéliques de France, qui s'appelait autrefois la communion des assemblées évangéliques de frères, qui a eh bien, pris le parti de reconnaître une autorité dans les églises, et chose qu'elle ne faisait pas jusque-là. Parce que finalement, eh bien, que l'on appelle ancien, que l'on appelle évêque, que l'on appelle pasteur, il y a un terme, eh bien... qui dépend des cultures, mais qui a pour vocation eh bien, la même chose, l'enseignement et la conduite de l'Église. On voit aussi que le diacre est subordonné à l'évêque. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas mention de lui dans la liste des ministères en vue de l'édification du corps de Christ. Il nous a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, il ne se trouve pas dans cette liste. Nous avons vu tout à l'heure Tite. Le Seigneur a demandé à Tite eh bien, d'établir des évêques ou des anciens. Les deux termes sont employés aussi. Mais il n'a pas demandé d'établir des diacres. Et la notion du diacre est consécutive, je dirais, à la... notion eh bien, d'évêque. On voit aussi qu'en acte 6, l'apparition des diacres s'est faite pour suppléer à un manque d'organisation dans l'église locale, consécutif à la surcharge de travail de ceux qui avaient été mis à part pour le ministère de la parole et de la prière. Voilà donc plusieurs remarques. Deux parties. C'est assez intéressant parce que deux types de responsables pour une église locale, cela s'apparente eh bien, à la notion du couple dans la famille. Deux qualités, deux types de personnes pour diriger une famille. Voilà ce dont, par exemple, les enfants ont besoin, qui ont des responsabilités, des charges et des positions différentes. Et c'est aussi eh bien, ce que nous avons dans l'Église du Seigneur. S'il doit y avoir une troisième personne, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même. Voilà. Alors parfois ça se passe à deux, dans le couple, ou parfois ça se passe à trois, avec le Seigneur. Mais pareil dans l'Église locale, parfois ça se passe à deux, ou parfois ça se passe à trois, quand les responsables eh bien, sont chacun pour leur part soumis au Seigneur. Une remarque, une question même, deux questions. L'Église peut-elle être conduite par une femme? C'est un sujet délicat. Je dirais que nous considérons encore cela comme une impossibilité. Je dis encore, parce que eh bien, la Fédération Baptiste, comme certains le savent, eh bien, a changé sa position de manière très officielle sur cette question. Et j'ai ici un rapport qui m'a été transmis sur eh bien, un compte-rendu de l'Assemblée du Congrès du 5 au 7 mai 2005, donc c'est très récent, et dans lequel il est écrit « Au niveau local, nous respectons la décision que prendra chaque église locale dans ce domaine, accepter ou non de confier l'exercice des ministères d'enseignement et de direction à des femmes. » 2. Au niveau fédératif, concernant le ministère pastoral, et parce que ce service représente de fait, au-delà de la communauté qui l'a choisi, toutes les églises, nous acceptons les points suivants. La commission des ministères et le conseil de la fédération examineront les candidatures au ministère pastoral selon la procédure et les critères définis par notre texte sur la reconnaissance du ministère pastoral. Ils le feront sans tenir compte du sexe du candidat et pourront ainsi proposer des candidates aux églises qui leur auront fait part de leurs besoins d'un pasteur. Toute femme qui aura été appelée, c'est souligné, à exercer ce ministère par une église locale de la fédération et dont le proposanat aura été validé selon les modalités habituelles, sera reconnu au même titre que les pasteurs hommes, pasteurs de la fédération. Donc voyez-vous, c'est très clair. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Et il suffit maintenant de laisser ce courant faire et les choses eh bien, vont beaucoup changer. Alors, il est certain qu'en ce qui nous concerne, eh bien, nous ne partageons pas ce point de vue. Dans la première épître à Timothée, là où le Seigneur enseigne eh bien, ce qu'il doit en être de la conduite et du gouvernement de l'Église locale, il est écrit eh bien, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Alors là, vous voyez, c'est très clair, le texte est aussi très clair. Le problème, c'est est-ce que l'Église doit être conduite par les critères du monde? Doit-on faire dans nos églises la parité homme-femme, là aussi? Vous voyez, c'est pas facile dans une société qui pousse eh bien, à tous les renoncements eh bien, et tout l'ordre que Dieu a établi, eh bien, d'avoir une position eh bien, qui soit claire sur cette question. Et là aussi, j'attire votre attention sur le fait que certains qui rappellent ces textes sont qualifiés dans les églises de misogynes. Sachez que ça, ce n'est pas un mépris qui est affiché à l'homme, ni même à Paul. mais à Dieu. C'est mépriser Dieu que de dire des choses comme cela. C'est Dieu qui a établi l'Église et c'est Dieu qui en a donné les règles. Et il convient aussi pour nous, eh bien, de les suivre scrupuleusement. Rassurez-vous, mesdames, j'ai une bonne nouvelle pour vous après. Attendez-moi. Hein, faut pas vous affoler. Hein. Mais voilà, c'est incontournable. D'ailleurs, dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure, il n'est pas écrit « il faut que l'évêque soit mari d'un seul homme ». Quoiqu'aujourd'hui, on ne sait même pas si ça voudrait dire une femme. Mais il est écrit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Juste après. On peut remarquer aussi une chose, eh bien, c'est que l'Église est gouvernée par le pasteur. Et comme pasteur, je suis aussi marié, mais l'Église ne doit pas être gouvernée par la femme du pasteur. Elle n'est pas plus qualifiée pour avoir la direction de l'Église locale. Et je sais que cela a fait l'objet d'une discussion avec ma femme. Non pas que je lui ai dit que je dois rester ici, mais c'était non seulement de respecter ce principe, mais surtout vis-à-vis de l'Église, de ne jamais donner l'impression que c'est elle qui pourrait eh bien, tirer les ficelles. Et ça, ce n'est pas bien non plus. Et il est très important, eh bien, là encore, eh bien, de ce que le pasteur eh bien, puisse être vraiment l'autorité de l'Église locale. D'ailleurs, dans l'église de Thyatire, qu'est-ce que fait comme remarque le Seigneur? Il reprend cette église, et il reprend cette église parce qu'il laisse la femme enseigner. Et c'est exactement ce qu'il a contraint. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Je lui ai donné un temps afin qu'elle se repente, mais elle ne le veut pas. Et donc c'est très important cette question-là. Regardez, par exemple, l'Église adventiste eh bien, s'est éloignée du Seigneur à cause eh bien, de ces choses-là. Et nous avons une certaine Ellen White qui s'est instituée, qui s'est dit prophétesse. Et regardez dans quel décor elle a conduit un certain nombre de chrétiens. Donc voilà encore une prérogative très importante. L'Église peut-elle avoir des diaconesses? Oui. La parole de Dieu est très claire là-dessus, Romains 16, 1 et 2, « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Et là, en l'occurrence, nous avons donc le terme de diaconesse qui est employé, nous avons eh bien, une église locale bien définie, et nous voyons eh bien, la recommandation non seulement du Seigneur, mais de l'apôtre Paul, ici, dans tout ce passage. Et en fait, pourquoi cela est tout à fait eh bien, compréhensible? Parce que le lien de subordination est toujours respecté eh bien, dans la question du diaconat. Et puis, j'aimerais quand même faire une remarque aussi là-dessus, c'est que c'est très important de relever que beaucoup de servantes du Seigneur se sont aussi suppléées eh bien, à l'absence de consécration des hommes. Voilà. Regardez comme dans les foyers, l'homme qui démissionne, ben, la femme elle se retrouve avec tout sur les épaules. Et parfois, elle porte une charge dont elle voudrait se décharger, mais elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ben, le mari n'est plus là, le mari ou n'est plus là dans sa tête, le mari est trop occupé à regarder la télévision. Voilà, donc c'est là aussi ce qui est très important de faire remarquer. Et dans l'Église, on voit beaucoup de femmes qui ont servi avec beaucoup de générosité, de cœur, de consécration, de discrétion, eh bien, et qui ont servi à l'édification de l'Église. Et rassurez-vous, ces propos n'ont pas pour vocation d'attirer quelque mépris, bien au contraire. Et nous devons être très reconnaissants. Deuxième point. Le rôle des responsables, les rôles des responsables. Nous avons lu dans notre texte, eh bien, tout plein de qualificatifs. L'évêque doit être ceci, 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 cela. Le diacre doit être ceci, 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 cela. Il n'est pas dit ce qu'il doit faire, à franchement parler, mais ce qu'il doit être. Et la première chose, c'est qu'il doit être un modèle, le modèle du troupeau. Il doit être un modèle par son exemple, son témoignage, sa parole, toute la démonstration de sa vie. Il est un modèle. Il est un modèle, je dirais, de maturité chrétienne. Et comme nous savons que le Seigneur veut nous amener à la maturité chrétienne, eh bien, il est très important, eh bien, que le pasteur, eh bien, puisse être un chrétien qui soit mûr. Regardez ce que disait l'apôtre Paul. « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Philippiens 4, verset 9. Rendez-vous compte avec quelle assurance eh bien, l'apôtre Paul pouvait dire « Imitez-moi ». Mais vous savez, ça doit être eh bien, le message aussi du pasteur. Il enseigne ce que dit la Bible, mais il est lui-même, il doit être lui-même la démonstration eh bien, de ce que la Bible doit produire dans une vie. Donc, c'est très important de voir à quel point il doit être le modèle du troupeau. Modèle, eh bien, du coup, il conduit comme berger, il marche devant, il sait où il va. Vous savez, c'est très intéressant de voir que le Seigneur ne nous a pas donné à chercher des directions à droite ou à gauche quand il s'agit de conduire l'Église. Il nous a donné une ordonnance, Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, quand on cherche la vision des choses que nous avons faites, ben, il faut relire cela, il faut le relire et le lire encore parce qu'il n'y a pas d'autre prescription. Allez, baptisez et enseignez tout ce que le Seigneur a prescrit. On voit qu'il conduit, il instruit. On voit que dans 1 Timothée, eh bien, l'apôtre Paul insiste sur cette notion-là auprès de ce jeune pasteur, Timothée. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4, 16. Il surveille. C'est le terme évêque, surveillant, dont il est question. La fonction ici, c'est celle de protecteur. Il assure la sécurité morale et spirituelle eh bien, de son troupeau. Pensez à des brebis. Vous savez, pour qu'elles se développent, elles ont besoin d'être conduites, elles ont besoin d'être nourries, mais elles ont besoin d'être entourées, protégées. Elles doivent être rassurées, elles qui sont si craintives. Eh bien, c'est aussi la même responsabilité qui incombe eh bien, à l'évêque. Il veille à assurer la concorde, la pureté de l'assemblée. Il la protège de la séduction du malin. Il exerce la discipline. Voilà, eh bien, quelles sont ses prérogatives. Quelles sont celles, eh bien, du diacre? Son rôle, je dirais encore, est comme celui de l'épouse au foyer. C'est que souvent, il fait tout, mais dans la discrétion. Et ça peut être un rôle ingrat. Je regardais d'ailleurs dans les Écritures, combien de fois est-il question du terme diacre? 3 fois, 4 fois avec diaconesse. Pas facile. C'est un travail, eh bien, dans la discrétion. J'ai noté ici sur mon papier, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a donné une femme à l'homme. Et je dirais aussi, il n'est pas bon que l'évêque soit seul. Il lui a donné les diacres pour l'épauler, pour l'entourer. Lisons ensemble acte 6. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas concevable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi nous, vous, 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous les chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et donc ici, on voit que ici, le diacre est un serviteur volontaire, principalement eh bien, affecté aux charges temporelles. Et on voit que son rôle est vraiment d'importance parce qu'il participe à la pacification eh bien, de l'Église. Il y avait du murmure, il y avait des dissensions, il y avait un esprit partisan entre les hellénistes et les autres qui étaient plutôt hébreux. On voit eh bien, que il participe à la paix, il soulage l'évêque, ils agissent concrètement auprès des chrétiens. Ils apportent un témoignage de sagesse et d'Esprit Saint d'une façon particulièrement concrète. Et donc c'est très important la notion du diacre parce que le pasteur, et ceci est très important de souligner, c'est ce que nous croyons, le pasteur n'a pas tous les dons. Vous savez que c'est ce que certaines confessions prétendent. C'est que dans l'Église de Pentecôte, c'est un des axiomes. Le pasteur a tous les dons. Si vous me mettez au piano, vous allez avoir du mal. Hein. Voilà. Il a tous les dons. Non. Non, le plus grand des dons d'un pasteur, d'un évêque, d'un ancien, c'est de savoir s'entourer d'hommes, de diacres, qui sont plus capables que lui, dans des domaines. Eh bien, dont il n'est pas capable d'assumer ou qui n'a pas le temps eh bien, d'assumer. Donc voilà ici donc, des responsabilités importantes. Le diacre est très important, il participe, comme l'homme et la femme participent tous deux à l'édification, à une édification équilibrée de la famille. Troisième et dernier point, les relations entre évêque et diacre. Celles-ci doivent être particulièrement suivies. Vous savez, je me suis étonné d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages chrétiens écrits sur la vie de couple. La réconciliation dans le couple. Retrouver son premier amour dans le couple. Le témoignage d'une vie de couple. Les conseils à la vie de couple. 5, 6, 10 conseils. La vie de couple. Ce que l'homme attend de la femme, ce que la femme attend de l'homme. Ah, il y en a une flopée. Mais il y a un autre couple qui a besoin d'être assisté. C'est le couple évêque-diacre. Et il y a très peu de littérature à ce sujet-là. Et pourtant, nous voyons qu'il y a les mêmes problèmes que l'on trouve dans la vie de couple. Il est important d'aider les couples eh bien, à s'entendre, à bien marcher ensemble, il est très important d'aider les diacres et les évêques eh bien, à bien s'entendre, à être en une parfaite union, communion pour l'édification de l'Église. Combien d'Églises sont déchirées, des chrétiens délaissés à droite ou à gauche, et peut-être que vous en êtes à cause de cela. Ce couple est essentiel et le bon fonctionnement de ce couple, qui est une institution divine, eh bien, est très importante. L'absence d'un bon fonctionnement de ce couple eh bien, entraîne des souffrances, des tensions, des divisions, j'allais dire des divorces. Vous savez ce que c'est qu'un divorce ? Après, on ne se remet plus, on est malade à vie. On est brisé. On vit avec une plaie. La perte de la confiance mutuelle. Tout ceci est fondamental pour la vie de l'Église. D'un autre côté, quand cette relation est bien vécue, c'est une source de joie et de bénédiction profonde. Et je crois aussi que c'est pour cela eh bien, qu'il est écrit un psaume, le psaume 133. Ah, qu'il est beau, qu'il est doux de voir des frères d'un même amour, unis entre eux. C'est tellement beau. C'est là que le Seigneur dit qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, d'où viennent les problèmes ? J'en ai relevé de trois ordres. Absence de qualification, absence de communication, absence de bonnes intentions. Absence de qualification. Manifestement, les problèmes viennent quand les personnes en place sont parfois pas à leur place. C'est là un drame, tant pour les diacres que pour les évêques. C'est là un drame. On sait que, eh bien, Spurgeon, quand il a établi son institut, ça m'avait surpris quand j'avais lu ça à l'institut biblique, il avait renvoyé un jeune homme, enfin renvoyé, il n'avait pas accepté un jeune homme dans son institut. Pourquoi? Parce que celui-ci avait une voix si fluette qu'il arrivait déjà, il avait du mal à l'entendre dans une conversation à Dieu. Et cet homme disait, mais je vous assure, le Seigneur m'a appelé au ministère. Alors Spurgeon lui a dit, eh bien voyez-vous, si Dieu vous avait appelé au ministère, il vous aurait aussi donné l'organe qui va avec. Ah, c'est fort. Sur le coup, prendre ça, ça ne devait pas être facile. Mais voyez-vous, il est très important d'être qualifié pour cela. Des hommes remplissent la charge d'évêque sans avoir été appelés à cela, simplement pour la recherche de certains honneurs. Nous croyons que Dieu appelle des hommes, mais nous voyons aussi que Dieu s'appelle eux-mêmes au ministère. Donc c'est très important de noter cela. De même, il y a des diacres qui ne sont pas non plus à leur place. On peut les avoir choisis sur des critères qui ne sont pas complets. On les a choisis sur la base de leurs dons, de leur capacité personnelle, au détriment de leur disposition de cœur et de fidélité, de consécration au Seigneur. Alors comment éviter ces écueils, tant pour le choix d'un évêque, tant pour le choix de diacre? Eh bien, dans Proverbes chapitre 19, verset 2, il est écrit que celui qui se précipite dans ses pas ne manque pas de péché. Et la précipitation n'est bonne pour personne dans tout cela. Il convient d'examiner les motivations quand on choisit telle ou telle personne. Il s'agit de s'entourer de conseils, de consulter Dieu. Vous voyez comme Moïse, eh bien lui-même disait « Attendez que je sache ce que l'Éternel désire. » Ayons aussi ce même réflexe. La parole est claire. 1 Timothée chapitre 3, verset 10. « Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. » Et voyez-vous, c'est ce préalable parfois qui peut nous faire défaut quand on se précipite. On n'a pas examiné, éprouvé la personne. Et après, eh bien, ceci est source d'ennui. Le Seigneur nous invite à choisir, et je vous cite Exode 18, verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les. » Voilà. Et donc, il faut voir ces critères vraiment dans leur ensemble. Ne pas les regarder d'une manière complète est une faute, eh bien, qui peut conduire l'Église dans de sérieuses impasses. Donc, question de qualification, de préparation. Je me souviens, quand j'étais à l'Institut biblique, un des pasteurs disait ceci, c'est pas compliqué, et dès qu'il y a des pasteurs, dès qu'ils sortent, eh bien, des instituts qui prennent une église en charge, ils détruisent en 2 ans ce qu'un homme a mis 20 ans à bâtir. Ne soyez pas de cela. J'avoue que cela m'a parcouru et me reste encore. Alors, il y a aussi un deuxième aspect, c'est l'absence de communication. Celle-ci est impérative. Impérative. Et cette absence de communication, elle crée des malaises, de constants malaises. Parfois, elle est intentionnelle, parfois elle n'est pas intentionnelle. Parfois, il n'y a pas la volonté de coordonner l'action commune. Je suis responsable de mon secteur, comme je suis responsable de mon secteur, je n'ai de compte qu'à rendre à Dieu, et donc je fais ce qui me plaît dans mon secteur. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que l'on soit diacre ou que l'on soit pasteur. Il est très important d'avoir cette notion, et bien celle de conduire de rendre des comptes entre frères. Et pour cela, il convient de communiquer plus que jamais. Il ne faut pas tomber non plus dans le syndrome de Moïse. Dieu m'a dit! Au dépens de toute sagesse, eh bien, on peut se réfugier dans le Dieu m'a dit. Et alors, c'est incontrôlable, ingouvernable. Telles attitudes ont détruit beaucoup. Qui es-tu, simple mortel, pour me dire ce que j'ai à faire, moi, loin de l'Éternel? C'est Dixit. Oui. Et parfois, eh bien, cela crée de gros troubles. On voit aussi que, eh bien, dans cette absence de communication, il y a parfois une confrontation entre deux logiques. La logique du diacre, la logique du pasteur. Ce n'est pas systématiquement l'attitude de l'un ou l'attitude de l'autre, mais il y a parfois deux logiques. Il y a la logique de la raison. C'est-à-dire, la logique de la raison, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ou avec ce qu'on voit. C'est une logique très réaliste, très concrète, qui est empreinte aussi de sagesse, mais elle peut être aussi complètement dépourvue de foi. Et alors, quand on sépare le temporel du spirituel, eh bien, ça crée des étincelles, c'est irréconciliable. Il y a la logique de la foi, c'est celle qui d'avance compte, eh bien, sur la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a ce grand serviteur de Dieu à Toronto qui s'appelait Oswald Smith, qui, quand il avait pris en charge cette église, eh bien, cette église avait de gros problèmes financiers et tous ses conseillers, ses diacres lui disaient « Mais oh là là, il ne faut surtout plus donner d'argent pour les missions, il faut arrêter ceci, il faut arrêter là, il faut refaire le budget. » Et en certaine manière, il y avait de la sagesse dans cette attitude. Mais alors lui, eh bien, il a dit « Je vais faire une campagne eh bien, sur la mission. » Et il a prêché une semaine sur la mission. Et une deuxième semaine sur la mission. Et finalement, on lui a reproché constamment, « Mais vous êtes fou! On n'est déjà pas bien, mais en plus, on va être ruiné !» Eh bien, la parole de Dieu nous dit bien que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et celui qui épargne l'excès ne fait que s'appauvrir. Et voyez-vous, ça, c'est la logique de la foi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas créer deux systèmes qui soit complètement indépendant l'un de l'autre. Il est nécessairement, eh bien, cette relation entre les deux. Et donc, c'est pour ça que celui qui a la responsabilité de l'Église doit être au fait de beaucoup de réalisme pour comprendre, eh bien, ceux qui travaillent aux choses temporelles. Et il doit aussi avoir une claire vision de ce que Dieu attend pour la conduite de l'Église. Il y a un terme technique que j'aimerais donner un petit peu un air intelligent. C'est qui correspond très bien à ce dont nous parlons, c'est ce qui s'appelle la cybernétique. Un vieux terme qui avait été premièrement employé par un homme qui s'appelait Ampère. Hein, Louis Ampère, je crois que c'est son prénom, celui qui nous a donné les ampères. Eh bien, la cybernétique, c'est ce qui est devenu par la suite, puisque c'est composé de deux mots qui veulent dire piloter un navire, tenir un gouvernail. Voilà, je crois que c'est cela les deux termes grecs qui sont mis ensemble. Et c'est devenu la cybernétique, l'art de la timonerie, l'art de gouverner un bateau. Et vous savez que c'est très intéressant de regarder cela, parce que dans les Écritures, l'Église locale est souvent comparée à une barque dans laquelle nous sommes tous embarqués et amenés dans une même direction, voué eh bien, aux mêmes intempéries, aux mêmes éléments, et il convient de coordonner l'action. La cybernétique est du coup devenue la science du gouvernement des hommes. Et c'est très intéressant de voir que dans la marine à voile, par exemple, il y a de grandes leçons à tirer pour apprendre à gouverner l'Église. Tenez, prenez un capitaine de bord qui prend sa barre et qui dit « Je suis chef, c'est moi qui décide de tout !» Et puis, à un moment, il prend la barre, il la pousse à gauche, à bâbord. Puis après à droite, à tribord, je suis le chef, je décide comme je veux. Et vous savez ce qu'il fait dans ces cas-là? Il envoie par-dessus bord, eh bien au moins un tiers de son équipage. Et pour avoir fait de la voile, eh bien j'ai vu la réalité de cela. Vous savez, ce qui est très important ici, eh bien, c'est la synchronisation, l'obligation dans la marine à voile de manœuvrer ensemble. Et c'est la même chose dans l'église locale. Pensez-vous, si un homme tire la barre comme cela à droite ou à gauche, ben c'est la bombe qui passe et qui fracasse des têtes. Ce sont des voiles qui changent d'orientation et des marins qui volent en l'air. Ce sont des gens qui, hop, basculent à la renverse parce que le bateau, eh bien, change d'équilibre. Mais je suis le chef. Je fais ce que je veux. Mais ça, on ne peut pas agir comme ça dans l'église du Seigneur. Il y a obligation, eh bien, de manœuvrer ensemble. Un chef de bord, il dit, parez à virer. Et qu'est-ce que répond l'équipage? Parez. Et là, on défait les taquets, on lâche les voiles, on pousse la barre, on borde la voile de l'autre côté, on fait baisse la tête, on laisse passer la baume, et après tout le monde est content, parce qu'on a effectué une manœuvre ensemble. Et ça, c'est là ce que nous avons besoin d'apprendre dans le gouvernement, et bien d'une église locale. La communication devient donc impérative. Dernière remarque, dernier point, je vous retiens longuement, eh bien, c'est l'absence de bonnes intentions. Et nous avons deux cas dans les Écritures, eh bien, où il y avait tant pour, je dirais, ce que on pourrait qualifier les diacres, eh bien, de mauvaises intentions, tant pour, eh bien, ce que l'on peut considérer comme le pasteur, de mauvaises intentions dans le cœur de ses responsables. Nous avons le cas dans le livre des Nombres, au chapitre 16 et au verset 1 à 3, le cas des fils de Corée. Il est écrit « Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Eliab, et On, fils de Pelet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints ». Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Verset 8, nous avons la réponse de Moïse. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que Dieu, le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce ? » Et donc ici, vous avez la relation entre sacrificateur et lévite, où chacun avait sa part de responsabilité. Et nous avons ici un cas de figure qui pourrait ressembler eh bien, aussi au cas d'église, entre relation entre eh bien, les évêques et puis les diacres. Et en l'occurrence, nous voyons ici les fils de Corée un peu dans la position des diacres. Notre texte, ici, parle de ceux qui se sont soulevés contre Moïse. C'était des gens de renom, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà une position, des princes d'Israël. On voit encore que ce sont ceux qu'on l'a convoqué à l'Assemblée, c'est-à-dire, dans d'autres traductions, il est écrit « les membres du Conseil ». Très intéressant, c'est parlant pour nous, n'est-ce pas? Eh bien, ces hommes, ils ont considéré que Moïse était un usurpateur. Voilà ce qu'il voulait prétendre. Était un usurpateur. Tu t'élèves sans que tu aies le droit de le faire. Et en fait, il y a vraiment une révolte intérieure chez ces hommes. Vous savez, c'est très intéressant de savoir que Corée et Moïse, c'était deux cousins. Quand je lisais cela, deux cousins germains. Je pensais à Philippe Égalité, qui a voté la décapitation de son cousin, le roi Louis XVI. Comme il savait que lui, il ne pourrait jamais régner, il dit oh, « coupez-lui la tête, on va changer de système ». Mais voilà, il y avait une révolte contre les autorités en place. Il y avait là des cœurs jaloux, des cœurs insatisfaits, des cœurs orgueilleux. Et cela a participé eh bien, aux troubles eh bien, dans la nation d'Israël. Alors donc, c'est très important parce que ce problème-là, c'est un problème qui remonte au commencement des temps, quand Lucifer eh bien, n'a pas accepté la place qu'il avait et qu'il a voulu usurper même eh bien, la place de Dieu sur son trône. Et ça, chers frères, c'est très important d'entendre cela à nous, Français. Peuple rebelle, peuple révolutionnaire, peuple jamais satisfait, jamais capable d'accepter des autorités. Ceci est particulièrement malsain. Et Dieu fait souffrir ce pays à cause, eh bien, du syndrome de Corée. Alors, cette rébellion, elle peut éclater, comme on le voit ici. Mais vous savez qu'elle peut l'être latente, tapis dans les cœurs, qui constamment conteste avec l'autorité, qui blesse, eh bien, ceux qui ont la charge de la conduite de l'Église. Il faut se repentir, eh bien, de tels agissements. Et le Seigneur dit très clairement en Hébreux chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Et beaucoup de responsables d'Église souffrent, eh bien, du mépris, eh bien, de leur diacre. C'est très malsain. Et il y a besoin de repentance dans tout cela. Et il y a l'autre cas, c'est le cas de Diotrèphe, dans 3 Jean. 3 Jean, versets 9 et 10, il est écrit, c'est l'apôtre Jean qui parle, « Je t'écris quelques mots, j'ai écrit quelques mots à l'Église, dit Jean. Mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. » Et donc ici, nous voyons encore eh bien, un autre comportement, celui qui a la responsabilité eh bien, de diriger le troupeau et qui le fait d'une manière qui n'honore pas du tout le Seigneur et qui ne respecte pas du tout eh bien, les Saintes Écritures. Remarquez ici, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas son enseignement, c'est sa conduite. Son problème, c'est qu'il aime, il est animé de désir de prééminence. Il aime à être le premier. Et je dirais que tous ces maux, tous les péchés qu'il commet derrière et qui font souffrir tant de personnes, prennent leur essence dans cette phrase. Il aime à être le premier. Vous savez qu'on peut être responsable sans aimer à être le premier. D'ailleurs, on ne peut ne pas être responsable et aimer être le premier. C'est ce qu'on a reproché au fils de Corée. Mais ici, c'est son cas. Et Diotrèphe a manifestement oublié l'exhortation du Seigneur qui dit « Quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » On voit que cet homme, eh bien ici, il rejette l'autorité apostolique. Il refuse de voir qui ? L'apôtre Jean, le disciple que le Seigneur aimait. Il refuse la communion de ses pères, je dirais. Il refuse la communion avec les autres pasteurs. C'est ce que nous voyons encore ici. Quel est son problème ? Il veut juger de tout, mais il n'accepte pas d'être jugé lui-même. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et voilà l'attitude ici de cet homme Diotrèphe. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, on est toujours prêt à faire face. C'est clair. On n'a pas peur pour son trône. On est confiant dans la souveraineté de Dieu. Regardez par exemple David. David s'est trouvé dans une situation de conflit avec son propre fils, Absalom. Et a-t-il chargé contre lui ? Non. Il s'est laissé dépouiller. Et regardez ce qu'il dit à Tsadok, le sacrificateur. Le roi David dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Et si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » C'est-à-dire qu'ici, David eh bien, n'était pas accroché à son trône. Cher pasteur, est-ce que vous êtes accroché à votre trône? Voilà un drame. On voit ici l'extrême, la grande humilité de cet homme, roi d'Israël, avec tous les avantages que cela pouvait avoir, toute la gloire qui était la sienne. Il dit « Ramène l'arche, et si Dieu veut me ramener, c'est lui qui le fera. » Et on voit ici cet homme, ce grand serviteur de Dieu, était gouverné par Dieu lui-même, confiant dans la souveraineté du Seigneur. Et vous savez, c'est cette souveraineté qui fait parfois défaut. Eh bien, aux responsables et aux évêques. Il parle mal contre les apôtres. Il est écrit, il tient contre nous de méchants propos. Littéralement, il tient des propos malicieux. C'est-à-dire qu'il tenait des propos malicieux à l'égard des apôtres. C'est-à-dire qu'il cherchait à jeter le discrédit sur l'honorabilité de frères dans la foi, sans accepter de rendre compte de ses propos et de ses agissements. Vous savez, il est écrit, « Quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et nous devons avoir comme responsable toujours le désir de la transparence et de faire paraître toutes nos actions, qu'elles puissent concorder eh bien, la parole de Dieu et être prêts à rendre compte devant tous nos frères dans la foi. Il abuse enfin de son autorité. Il empêche, il chasse, il est un destructeur ici de communion fraternelle. Vous savez, il y a de chez lui du Staline avec épuration bolchevique à la clé. C'est cela où on chasse les gêneurs. Ceux qui ont décelé une faille, un problème, ils les chassent. Et le gêneur n'est pas forcément un pécheur, mais c'est celui qui ne veut pas reconnaître l'autorité suprême du gourou. Voilà. Et dans combien de mouvements, et en entendant parler à droite ou à gauche, eh bien ce genre d'attitude perdure. Il est écrit, au contraire, qu'il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Si c'est la vérité que nous défendons, celle-ci devrait nous rendre forts et aptes eh bien, à la confrontation. Il y a donc deux manières de gouverner les hommes. Il y a ceux qui usent de la force de la loi. Et la force de la loi, c'est la justification que nous tenons dans la parole de Dieu, dans la règle commune. Et il y a ceux qui usent de la loi de la force. Et ce sont là les agissements eh bien, de notre diotrèphe. Ce tableau est triste, mais je n'aimerais pas finir sur ce témoignage. J'aimerais vous en lire tout simplement un autre, que nous trouverons non pas dans les Écritures, non pas dans un modèle chrétien, mais c'est le témoignage, c'est ce que l'on apprend dans les écoles militaires, sur l'art du commandement. Et j'aimerais vous lire une lettre qui fait encore référence dans beaucoup d'écoles militaires, que l'on cite quand on établit des autorités. C'est la lettre du maréchal de Belle-Île, écrite au XVIIIe siècle, quand son fils a pris possession d'un régiment. Et j'aimerais vous en lire des extraits. Je sais que, je le dis ça aux étudiants, aux futurs étudiants, que cette lettre, elle peut nous inspirer et nous aider à apprendre à gouverner l'Église locale. Et nous la détaillerons à l'Institut. Il est écrit, et vous ferez vous-même les parallèles, il n'est pas dit pasteur, il est dit colonel. Mais il n'est pas dit Église, mais il est écrit le corps, pour parler d'un régiment. Et ça, nous pouvons aussi le comprendre. Le régiment que le roi vient de vous donner est un des meilleurs de l'armée. Son lieutenant-colonel est un militaire respectable par de longs et d'excellents services. Tous les capitaines qui le composent sont plus âgés que vous, et n'est aucun d'eux qui n'eût mérité plus que vous d'être nommé colonel. Cependant, c'est vous qui allez être leur chef, que cette première réflexion ne sorte jamais de votre mémoire. Ici, c'est le rapport entre les responsables. Ayez donc pour votre lieutenant-colonel la déférence la plus grande. Ne donnez aucun ordre sans le consulter. Je vous ai souvent donné ce conseil, cet ordre, je le renouvellerai chaque fois que j'en trouverai l'occasion. Si à l'exemple de quelques jeunes chefs, vous manquiez d'égard, on a l'impression d'entendre parler de Roboam, ou de considération pour votre lieutenant-colonel, vous me feriez concevoir de vous l'opinion la plus défavorable, et vous deviendriez bientôt la victime de votre imprudence. Votre régiment divisé entre vous et lui serait en proie aux partis, aux cabales. Dès lors, vous ne pourriez plus espérer de faire le bien. Ayez pour les anciens capitaines des écarts marqués. Consultez-les fréquemment. Témoignez-leur de l'amitié et de la confiance. Soyez le soutien, l'ami, le père des jeunes officiers. Aimez les vieux bas officiers et les anciens soldats. Parlez-leur souvent et toujours avec bonté. Consultez-les même quelquefois. Un chef de corps se trouve toujours bien de cette popularité. Elle m'a été souvent utile. Ayez un régiment meilleur et plus instruit que les autres. Cet amour-propre est permis à un colonel. Mais ne cherchez pas à le rendre plus beau et surtout à le surcharger de pompe. Veillez à ce que ses compagnies soient toujours complètes en hommes propres à la guerre. Assistez à tous les services que fera votre régiment. Soyez toujours le premier au rendez-vous que vous lui aurez assigné. Paraissez uniquement préoccupé de vos devoirs. Soyez actifs, vigilants, exacts, et vos officiers seront ponctuels, attentifs, zélés. Dans le cas contraire, vous verrez une triste et froide apathie s'emparer de votre régiment. Tout colonel négligent entraîne tout son corps vers l'oubli de ses devoirs. Voilà encore qui peut nous édifier. Regardez-vous comme le juge, le censeur, comme le magistrat, comme le père de votre régiment. En qualité de magistrat et de juge, vous veillerez au maintien des lois. En qualité de censeur et de père, vous veillerez au maintien des mœurs. Occupez-vous surtout de ces derniers objets, toujours oubliés et toujours négligés par les chefs de corps militaires. Là où les mœurs règnent, on observe les lois. Et ce qui vaut mieux encore, on les aime. Veillez donc à épurer les mœurs, mais ne pensez pas qu'elles se commandent. Elle se montre, elle s'inspire. L'autorité de l'exemple est ici, comme presque partout, la plus forte que celle de la volonté. La vigilance nous ferait en vain découvrir dans les autres des vices qu'on pourrait nous reprocher à nous-mêmes. Si vos mœurs sont pures, celles de votre régiment le seront. Votre tempérament se fortifiera, vous économiserez beaucoup de temps, et vous vous mettrez à l'abri de plusieurs ridicules durables. Vous ne serez jamais le jouet des circonstances. Et l'estime publique vous dédommagera des privations que vous vous serez imposées. Ne laissez passer aucune semaine sans visiter une, deux ou trois fois les malades de votre régiment. Parlez à chacun d'eux avec leur bonté. Écoutez leurs plaintes et faites-les cesser. Écoutez le récit de leurs maux. Cette complaisance contribuera autant que les remèdes à hâter leur guérison. Souvenez-vous, je vous le répète, que beaucoup de vos subalternes ont beaucoup mieux mérité que vous de commander un régiment, que beaucoup ont une origine plus antique et plus illustre que la vôtre, et qu'il ne leur a manqué pour être élevé au-dessus de vous qu'un peu de richesse ou de bonheur. Soyez donc accessible, affable, poli, prévenant, mais encore davantage envers vos inférieurs qu'avec vos égaux. La politesse avec ses égaux n'est souvent que l'effet d'une politesse adroite. Celle dont on use avec ses subalternes est une preuve de la bonté du cœur. Les louanges que j'ai reçues pour n'avoir jamais fait sentir le poids de mon autorité doivent vous encourager à imiter ma conduite. C'est fort. Voici enfin mon dernier précepte. Souvenez-vous sans cesse, mon fils, que ce n'est point pour vous-même que vous avez été fait colonel, mais pour le bien du service et l'avantage du régiment. qui vous est confiée. Que la gloire de l'État soit donc votre grande préoccupation. Et il est certain que pour nous, la gloire du Seigneur doit être notre grande préoccupation. Ici, il y a beaucoup à apprendre pour chacun d'entre nous. Je ne dirai qu'un mot. Le couple diacre ancien ne saurait glorifier le Seigneur sans une relation de confiance profonde, eh bien, établie dans ce couple. C'est le maître mot. Tout le reste n'est que bavardage. Cette relation, elle est comme la relation entre un homme et sa femme. Quand la confiance n'y est plus, le couple sombre et la famille s'effondre. Ayons vraiment ça dans notre cœur, ayons le désir eh bien, de saisir plus que jamais cette troisième personne pour la conduite de l'Église, Jésus-Christ. Il est écrit dans Ecclésiaste 4:12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne rompt pas facilement. Si nous avons souvent appliqué ce verset comme un précepte à la conduite des couples, il est bon de l'appliquer plus que jamais à la conduite de l'Église locale. Amen. Et que Dieu vous bénisse.